Chapitre 15. Carla se tenait dans la cuisine d'Angela, vide à l'exception d'une antique bouilloire posée sur le plan de travail à côté de la gazinière. Pour la énième fois de la journée, son téléphone se mit à vibrer. Elle ne daigna même pas y jeter un coup d'œil. C'était soit Théo, soit l'inspecteur, et elle n'était d'humeur à parler ni à l'un ni à l'autre. Elle venait déjà d'avoir l'agent immobilier au téléphone. Elle voulait fixer un rendez-vous pour qu'il vienne estimer la maison, afin d'envisager une mise en vente à la fin du printemps, la saison la plus propice. Et s'était rendu compte qu'une simple conversation, avec l'agent ou avec Irène, la voisine, était presque au-dessus de ses forces. Carla ouvrit les placards au-dessus de l'évier et les referma, puis ouvrit ceux du bas. Tous vides. Elle savait qu'ils étaient vides, elle les avait vidés elle-même. Mais qu'est-ce qu'elle fabriquait ? Elle cherchait quelque chose, mais quoi ? Son téléphone ? Non, il était dans sa poche. Le sac en tissu. Où avait-elle bien pu mettre le sac en tissu ? Elle repartit dans le couloir et découvrit qu'elle avait laissé la porte d'entrée ouverte. Décidément, elle perdait la boule. D'un coup de pied, elle claqua la porte, puis se retourna et resta plantée là, le regard fixé sur un endroit du mur à côté de la cuisine où demeurait le spectre d'un cadre. Qu'avait-il là, avant ? Elle ne s'en souvenait pas. Quelle importance ! Mais qu'est-ce qu'elle faisait là ? Pourquoi était-elle venue jusqu'ici ? Ces trous de mémoire n'étaient pas habituels chez elle. La faute au manque de sommeil, se disait-elle. Après tout, ce n'était pas pour rien qu'il s'agissait d'une forme de torture. L'épuisement vous privait de toutes vos capacités. Elle se rappelait vaguement avoir déjà ressenti cela, juste après la naissance de Ben. Sauf qu'à l'époque, son manque de concentration était empreint de joie et ressemblait plutôt à une euphorie consécutive à une prise de drogue. Là, elle avait l'impression d'être sous calmant ou sous l'eau. En réalité, cela se rapprochait surtout de l'état dans lequel elle s'était retrouvée après la mort de son enfant. Carla revint machinalement à la cuisine, se posta devant l'évier et regarda dans la rue. Elle se pencha, le front appuyé contre la vitre, et aperçut la fille, celle qu'elle avait rencontrée chez Irène. Elle s'éloignait en traînant les pieds. Cette fille n'était pas nette, sournoise, jolie mais dangereuse. Une fille facile. Carla se mit à penser à la belle étudiante insouciante qu'on avait vue partout dans les journaux quelques années plus tôt, celle qui avait assassiné son ami. Ou qui n'avait pas assassiné son ami, justement. Quelque part en France ? Non, en Italie. À Pérouse, oui, c'était ça. Bon sang, mais qu'est-ce qui lui prenait de penser à ça ? Elle ne savait presque rien de cette fille. Ou plutôt, la seule chose qu'elle savait à son sujet, c'était que sur son temps libre, elle rendait visite à des vieilles dames pour les aider à faire leurs courses. Qu'est-ce qui prenait à Carla de vouloir voir en elle un membre de la famille Manson ? Dans sa poche, le téléphone vrombit à nouveau, tel un insecte furieux coincé dans un bocal. Carla serra les dents et l'ignora. Un thé, songea-t-elle. Je vais me faire un thé avec plein de sucre. Elle lança la bouilloire, ouvrit le placard au-dessus de l'évier, toujours vide. Et merde. Carla éteignit la bouilloire, repartit dans le hall d'entrée et monta lentement l'escalier. Elle était épuisée, ses jambes pesaient une tonne. Arrivée sur le palier, elle se retourna et s'assit. En bas, près de la porte d'entrée, il y avait auparavant un petit tapis cache-caille le long du radiateur. Carla aperçut un accroc sur la moquette de la dernière marche, à côté d'elle. Elle tira sur les fils, caressa du doigt la déchirure nette de 3 ou 4 centimètres de long sur le tissu abîmé par le temps. Une larme tomba du bout de son nez. « Abîmé par le temps », songea Carla. « Voilà qui nous décrit bien, Angie. » Elle se passa une main sur le visage, se redressa et se rendit dans l'ancienne chambre de Daniel, au fond de la maison. Il n'y restait plus qu'un vieux lit à une place et une armoire avec une porte à moitié dégondée. L'entreprise qui avait récupéré les meubles n'en avait pas voulu. Carla posa le carnet qu'elle avait à la main sur une pile de papier au fond de l'armoire et referma le meuble du mieux qu'elle put. Après cela, elle sortit la laisse du chien de sa poche, retira son manteau et ferma la porte de la chambre. Elle glissa la poignée en cuir de la laisse autour de la patère fixée sur le battant et tira dessus un bon coup. Puis elle quitta la pièce et repartit lentement dans le couloir en direction de la chambre d'Angela, ses doigts effleurant les moulures des murs au passage. Après le départ de Daniel pour l'internat, Carla espaça de plus en plus ses visites chez sa sœur, jusqu'à cesser d'y aller. Il n'y avait pas vraiment de raison à cela, ou plutôt il n'y en avait pas qu'une. Elle s'était simplement rendue compte qu'elle n'y arrivait plus. Ce fut donc la fin des cours de yoga imaginaires. Les années passèrent. Puis une nuit, bien 6 ou 7 ans après la mort de Ben, Carla fut réveillée par un coup de téléphone. Il était peu après minuit, une de ces heures où chaque appel est forcément source d'angoisse. Il lui fallut un moment pour répondre, le temps que le brouillard des somnifères se dissipe. « Pourrais-je parler à Carla Meyerson, s'il vous plaît ?» dit une voix de femme. Le cœur de Carla se serra. Théo était en Italie, enfermé dans une ferme perdue en nombris pour essayer d'écrire, et les gens conduisaient n'importe comment là-bas. Théo lui-même conduisait n'importe comment là-bas, à croire qu'il ressentait le besoin de faire couleur locale. « Madame Meyerson, pouvez-vous venir au poste de police de Holborn ?»« Non, rien de grave, mais nous avons ici une... Angela Sutherland, c'est votre sœur, je crois. Non, elle n'a rien, elle est juste... Elle a un peu trop bu et elle s'est attirée quelques ennuis. Il faut que quelqu'un vienne la chercher. Vous pensez pouvoir vous en charger ?» Carla appela un taxi, s'habilla rapidement et sortit sous la pluie glacée de Londres, sans trop savoir si elle devait être terrifiée ou folle de rage. Le poste de police était calme sous ses néons blafards. Sur les sièges près de l'entrée, une femme assise seule pleurait doucement en répétant « Je veux juste le voir. Je veux juste savoir s'il va bien. » La policière installée à l'accueil, probablement celle qui avait appelé, fit signe à Carla. « Violence conjugale », résuma-t-elle en désignant la femme avant de lever les yeux au ciel. « Il lui en colle une, elle nous appelle, puis elle décide que finalement elle ne veut pas porter plainte. « Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ?»« Je viens chercher Angela Sutherland. » C'est ma sœur. On m'a dit qu'elle était ici. L'agente jeta un coup d'œil à son ordinateur, hocha la tête et se tourna vers la pièce située dans son dos. John, appela-t-elle. Tu peux m'amener, mademoiselle Sutherland? Oui, sa sœur est arrivée. Puis, à l'attention de Carla, elle a bu un coup de trop et elle a fait un esclandre à la borne de taxi. Un esclandre? Oui, elle s'est attaquée à un homme dans la queue. D'après les témoignages, c'était plutôt mérité, mais bref, votre sœur n'a pas réussi à se calmer, et quand un des chauffeurs de taxi a voulu intervenir, il s'est pris un coup, lui aussi. Alors il nous a appelés. Et quand nos gars sont arrivés, votre sœur les a accueillis avec une bordée d'insultes que je ne répéterai pas. « Oh là là !» balbutia Carla, atterrée. « Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai jamais vue se comporter ainsi, ce n'est pas du tout son genre. C'est quelqu'un de très poli. » En temps normal. La jante sourit. Ah, l'alcool, ça nous fait faire des choses étranges, hein? Si ça peut vous rassurer, je crois qu'elle est mortifiée. Et comme personne ne va porter plainte, ce n'est pas si grave au final. Elle se pencha et poursuivit, plus bas. Pour être honnête, je pense qu'elle s'est surtout fait peur à elle-même. Pour Carla, ce fut aussi la honte, le sentiment le plus marquant de cette nuit-là. La honte de devoir aller chercher sa petite sœur au poste au milieu de la nuit, vite éclipsée par la honte de voir ce qu'il était advenu de celle-ci depuis la dernière fois qu'elle l'avait vue. Émaciée, les yeux enfoncés dans leurs orbites, la peau lisse de ses joues quadrillées de veines, le dos voûté. Angela. Je suis tellement désolée, Carla, chuchota Angela sans la regarder. Vraiment, je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait. On m'a dit que j'avais hurlé sur des gens, que je les avais insultés, et je ne me souviens de rien. Elles s'assirent toutes deux à l'arrière d'un taxi pour rentrer chez Angela. Aucune ne parla, mais Carla passa un bras autour des frêles épaules de sa sœur et la serra contre elle. Cette sensation raviva encore sa honte. Elle avait l'impression de tenir une enfant contre elle, comme quand elles étaient petites et qu'Angela n'était qu'une gamine minuscule, énergique, drôle. Est tellement agaçante. Une autre vie. En tout cas, Carla avait l'impression que cela faisait des siècles qu'elle n'avait pas aimé sa sœur, des siècles qu'elles avaient cessé d'être meilleures amies. Elle se mit à pleurer. Elle pleurait encore en arrivant à Hayward's Place. Elle pleura en payant le chauffeur de taxi, en suivant sa sœur jusqu'à la porte, en découvrant l'état calamiteux de la maison qui sentait l'humidité et la cendre. « Arrête ça, s'il te plaît, » dit Angela en montant l'escalier. « Je t'en supplie, arrête ça tout de suite. » Carla l'entendit se faire couler un bain. Elle prépara du thé. Nature, il n'y avait pas de lait dans le frigo. D'ailleurs, il n'y avait rien dans le frigo, à part un vieux bout de fromage et une bouteille de vin blanc à moitié vide. Carla porta les deux mugs à l'étage et s'assit sur les toilettes pendant que sa sœur se lavait. « Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver ivre, » dit Angela. Elle était assise dans la baignoire et tapotait avec précaution ses genoux écorchés avec un gant de toilette. Carla voyait remuer les os de ses épaules, prêts à transpercer sa peau toute fine. « J'ai bu un ou deux verres, trois maximum, et peut-être un autre au pub après ça. J'étais avec les collègues, tu sais. Personne ne m'a vue à la borne de taxi, en tout cas je crois. Oh là là, j'espère que personne ne m'a vue. Ça s'est passé si vite. Un instant, tout allait bien, et d'un seul coup, c'est comme si je m'étais réveillée avec cet homme devant moi qui me criait dessus et me traitait d'ivrogne. Je croyais que tu ne te souvenais pas de ce qui s'était passé à la borne de taxi, » pensa Carla. À la place, elle dit « Tu ne pèses presque rien, Angie. Tu avais mangé quelque chose avant de sortir, au moins ?» Sa sœur haussa les épaules. « Ça fait combien de temps que tu es comme ça ?» L'air morne, Angela regarda par-dessus son épaule. « Comme quoi ?» Elle se retourna vers le mur et se mit à gratter la moisissure sur les joints entre les carreaux. Carla l'aida à sortir du bain, récupéra une plaquette de paracétamol dans son sac à main et trouva de l'antiseptique dans le placard de la salle de bain pour nettoyer les coupures sur le corps d'Angela. Elle aida sa sœur à se coucher, puis s'allongea à côté d'elle et lui prit la main. Du pouce, elle lui caressa les doigts. « J'aurais dû savoir que tu allais si mal, » souffla-t-elle. « J'aurais dû savoir. »« Je devrais t'avoir pardonné, » pensa-t-elle. « Pourquoi ne t'ai-je toujours pas pardonné ?» Quelques heures plus tard, Angela se réveilla en poussant un cri qui tira Carla du sommeil. Celle-ci bondit de stupeur dans le lit. « Est-ce qu'il est là ?» chuchota Angela. « Qui ça ? Angie, de qui tu parles ?»«
Oh, non, je ne sais plus. J'ai dû rêver. »
Elle tourna le dos à Carla, qui se rallongea et ferma les yeux dans l'espoir de se rendormir.
« Est-ce que tu savais que je voyais quelqu'un ?»
murmura Angela.
« Ah oui, je l'ignorais. Il s'est passé quelque chose ? Vous vous êtes séparés ?»«
Non, non, je ne te parle pas dans ce moment, » répondit Angela, agacée. « À l'époque, je voyais quelqu'un à l'époque où ça s'est passé. Je ne t'en ai jamais parlé, hein. Il était marié. Il venait à la maison, parfois.
« Angie, » souffla Carla en lui passant un bras autour de la taille. « De quoi tu parles ?»«
À Lonsdale Square. » Carla retira vivement son bras. « Quand je vivais à Lonsdale Square avec Daniel, après la mort de papa, je voyais quelqu'un. Et la veille de l'accident, on a passé la soirée tous les deux dans le bureau pour regarder un film. Tu te souviens de l'écran ?» Oui, elle se souvenait de l'écran de projection que leur père avait installé dans son bureau pour visionner leur film de famille.
On avait bu et, bon, je pensais que les enfants dormaient, mais Daniel était réveillé. Il est descendu au premier et il nous a surpris.
Elle respirait plus lentement, plus difficilement.
Il était tellement contrarié, Carla, fou de rage. Il refusait de se calmer. Je lui ai dit de partir, enfin, à mon ami. Je lui ai dit de partir et j'ai raccompagné Daniel au deuxième étage. Il a mis très longtemps à se rendormir. Après ça, je suis allée me coucher. Directement. Je ne suis pas redescendue dans le bureau. Je ne suis pas repassée au premier pour fermer la porte à clé.
Angie, l'interrompit Carla. Arrête. Ne fais pas ça. Nous avons toujours...
J'ai toujours su que tu avais laissé la porte ouverte. C'était...
Oui, dit doucement Angela. Oui, évidemment que tu savais.
Évidemment.